Donc on est toujours dans le Perek Mem Aleph. Dans le Perek Mem Aleph, on a expliqué des notions de base. C'était une suite directe à ce qu'on a expliqué dans les chapitres précédents. Dans les chapitres précédents, on a expliqué que la Kavana est très importante. Que même si une mitzvah accomplie sans Kavana est quand même une mitzvah, mais ça ne change pas pour autant que la Kavana, c'est les ailes de la mitzvah. Donc on a expliqué un peu plus qu'est-ce que c'était la Kavana. Et on s'est focalisé sur deux points. On a dit que de manière générale, la Kavana, on se focalise sur Ahava et Ira, l'amour et la crainte. C'est ça la Kavana. C'est-à-dire quand je fais une mitzvah, le cœur que je mets dans la mitzvah, c'est ou bien le moteur de ma mitzvah, ça va être l'amour que j'ai envers Dieu, ou bien ça va être la crainte. Ça c'est de manière générale. Amour ou crainte. Ahava et Ira. On a expliqué qu'en premier lieu, il était très important de commencer par la Ira, par la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que si on démarre par l'amour, dans ce cas-là, tout tourne autour de moi. Alors que si on démarre par la crainte, tout tourne autour de Dieu. Ça, c'est déjà un premier point qu'on a expliqué. On a expliqué ça déjà depuis le premier cours qu'on a eu sur le chapitre 41. Ensuite, ça c'est un premier point qu'on a expliqué. On a expliqué qu'à part ce point-là, donc ce premier point qui est... Donc on a commencé à parler de la ira, de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. On a dit que quand on parle de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, la technique la plus simple pour arriver à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est même un enfant, il peut le faire. C'est de s'imaginer comment Dieu est très grand, comment moi je suis tout petit, et comment ce Dieu qui est très grand, il s'occupe de moi. Et il s'intéresse à ce que je fais. C'est comme le PDG qui s'intéresse à ce que fait l'homme de ménage. Attends. Que là, automatiquement, quand on réfléchit à ça, au bout de quelques instants, on a les frissons. C'est obligé. Et si on n'a pas les frissons, comme il a expliqué, c'est parce que notre Neshama vient d'un niveau très bas. Mais normalement, c'est impossible que ça ne marche pas. Chacun, il a ses points faibles. On m'en a expliqué, il y a des gens que, par exemple, ça peut être une musique qui peut les toucher. D'autres personnes, c'est un beau tableau qui peut les toucher. Mais chaque personne a son point faible. Quand je dis son point faible, c'est son point fort en vérité. Ça veut dire son point sensible. Son point sensible qui va le toucher. Donc ça c'était le premier point. On a expliqué qu'on doit s'imaginer comment Dieu est très grand et comment moi je suis tout petit, comment Dieu s'intéresse à moi. Ça c'était un premier point. Un deuxième point qu'on a expliqué, que à Kadosh Baruch Hu, en nous donnant la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire, mis à part la kavana générale de penser que Dieu s'occupe de moi, il faut penser au fait que la Torah et les mitzvot, partout particulièrement, c'est une perche à Kadosh Baruch Hu nous a tendue. Et que quand on attrape la perche, on s'attache à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'était le deuxième détail. Troisième détail, on a expliqué, dans la ira d'Akadosh Baruch Hu, on a expliqué qu'il fallait réfléchir que dans chaque mitzvah particulière, bon, ça on l'a dit, on ne peut pas le faire, mais il faut savoir que ça existe au moins, que dans chaque mitzvah particulière, ça représente un concept particulier. Par exemple, tefillin, ça représente quoi?
Le jour divin.
Ça représente l'annulation du cœur et de l'esprit à Kadosh Baruch Hu. Talit, ça représente quoi? Tu te rappelles, Yves? Talit, ça représente le fait de s'envelopper de... Le fait de s'envelopper de quoi? Kabbalat Omachut Shamayim, de s'envelopper de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Ça, on s'est arrêté ici. On a expliqué que la ira, c'est une personne, la semaine dernière on a expliqué longuement la différence qu'il y a entre servir à Kadosh Baruch Hu comme un esclave ou servir à Kadosh Baruch Hu comme un enfant, ce qui correspondrait à la différence que je viens d'expliquer entre l'amour et la crainte. D'accord? Donc, enfin, plutôt la crainte et l'amour. Esclave et enfant. Bon. On a expliqué que les deux sont très importants, mais on voit que dans la Torah, on nous parle de l'importance de démarrer par la crainte. Très important. Parce que tout se joue sur le point de départ. Comme on a expliqué longuement la semaine dernière, quand on a reçu la Torah, que c'est quoi la force qu'on a dit d'abord naasé, après nishma, d'abord on fera, puis on comprendra. Ça veut dire que si on comprendra par la suite, c'est simplement parce que Dieu nous a demandé. C'est pas le contraire, c'est pas que j'ai compris. Et comme j'ai compris, alors Dieu, tu m'intéresses, donc je fais ce que tu me demandes. Non. Le point central du monde, c'est pas l'homme, mais c'est plutôt Akadosh Baruch Hu. On va parler d'un point complètement nouveau. Achiné Amrourazal. Jusqu'à présent, tout a tourné au final autour de l'homme. Ça veut dire que, quand j'ai tout a tourné autour de l'homme, ça veut dire que c'était entre l'homme et Dieu. On n'a pas du tout parlé, quand j'ai dit jusqu'à présent, c'est-à-dire depuis le début du Tania, on n'a pas du tout parlé, très peu parlé, du concept du Klal Israël. Du concept qu'on fait partie d'un ensemble. On a très peu parlé. Principalement, jusqu'à présent, dans le Tania, de quoi on parlait? On parlait de entre l'homme et Dieu. Ça veut dire qu'à la limite, ça peut s'appliquer. Je suis dans un désert, il n'y a personne autour de moi. Entre l'homme et Dieu. Donc l'homme il va combattre contre Yitzhara. L'homme il va gagner contre Yitzhara. L'homme il va craindre Dieu. L'homme il va aimer Dieu. Mais au final, on ne parle pas vraiment de ce qu'il y a autour. On a parlé un petit peu. On a parlé de l'importance de Ahavat Israël. D'accord? dans le Perek Lamed Vet. Mais encore une fois, c'était toujours par rapport au sentiment de la personne. On n'a pas parlé du fait que la personne fait partie du Klal Israël. Ça, c'est, vous allez voir comment ça va être très important et comment ça va nous permettre d'arriver à une kavana particulière. Et c'est la kavana du Lechem Ichoud. Le Lechem Ichoud qu'on dit très souvent, on va commencer le Sfirat HaOmer, on va dire le Lechem Ichoud, et on dit très souvent le Lechem Ichoud. On va expliquer que c'est ça le Lechem Ichoud. Bon, alors dans les mots. Ach iné, amrou rata. Chachamim on dit comme ça. Leolam alyoti adam atzmo minaklan. Les Chachamim nous ont donné un principe dans la Gemara Brachot, page 49b. Nous avons un principe qui dit qu'un homme ne doit jamais se sortir minaklal de la générale de la communauté. Alors de quoi elle parle la Gemara là-bas? La Gemara parle comme ça. Elle dit que la Gemara parle du zimoun là-bas. Vous savez très bien que quand on fait le zimoun, d'accord, donc on dit Rabotai Nevarech. D'accord, Rabotai Nevarech. Après on dit Yehi Shem Hashem Mevorach Meata Veadola. Très bien. Donc comment ça se passe? On dit Rabotai Nevarech, ça veut dire chers amis, d'accord, mes maîtres, Nevarech, on va bénir à Kadosh Baruch Hu ensemble. Alors la Mishnah dit comme ça. Écoutez bien. La Mishnah d'Abrachot dit comme ça. Elle dit, si on est trois personnes, là dans ce cas-là, celui qui invite les autres Zimoun, donc il y a un qui invite les deux autres, il est obligé de dire Nevarech, on va bénir. Pourquoi? Parce qu'il doit être minimum trois à bénir à Kadosh Baruch Hu. La Mishnah continue, elle dit, mais si ils sont quatre, donc plus que trois, celui qui invite les autres à faire le Zimoun n'est pas obligé de dire on va bénir. Il peut dire bénissez à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Puisque sans lui, il y a aussi trois personnes. Bon, c'est logique. Et là, sur ça vient la Gemara, sur cette Mishnah. La Gemara, elle vient, c'est Shmuel qui dit, il dit bien que la Mishnah t'a dit que celui qui invite les autres Zimoun, il peut dire bénissez Dieu. Donc, il ne fait pas partie du klal. Il dit, Léolam, Alyuti, Adam, Atmo, Minaklal, jamais une personne doit se sortir du klal. Et c'est pour ça que, ça veut dire, bien que, alarquement parlant, il pourrait dire bénissez Dieu, il devra dire quand même, on va bénir, Nevarer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait jamais la différence, si on est 3 à 4, toujours on dit Nevarer. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que Shmuel nous a dit. Maintenant, la Morazaken va nous montrer ce que veut dire cette Gemara dans le sens kabbalistique. D'accord? On va aller un petit peu plus loin. Littéralement, ça veut dire Leolam, Alyoti, Adam, Atso, Minaklal. Un homme doit jamais se sortir Minaklal de la communauté. Là, vous allez voir comment on va parler. En vérité, quand on fait une mitzvah, ça n'a pas un impact seulement sur notre neshama, et la neshama de nos enfants, et la neshama de nos ancêtres. Jusqu'à présent, on a parlé toujours de la chaîne de production. C'est déjà pas mal. Mais encore une fois, la chaîne de production, c'est pour, au finalement, arriver jusqu'à moi. Enfin, au final, arriver jusqu'à moi. Là, on va complètement parler d'autre chose. On va parler du fait que, quand je fais une mitzvah, c'est le Klal Israël entier qui va profiter de cette mitzvah. Et qu'est-ce qu'on veut? Dans le Lechem Ichoud, de quoi on parle? Dans le Lechem Ichoud, on parle de cette Kavana, et on dit que chaque personne, avant de faire une mitzvah, doit réfléchir aussi à ce concept-là. Que je suis pas seul à profiter de cette mitzvah. Comme on va expliquer longuement. Donc là, on a juste le concept. Donc dans les mots. Ar omnam arou razal, chachamim ont dit. Leolam ayoti adam et atzmo minaklal. Chachamim nous ont dit qu'un homme doit jamais se sortir minaklal de la communauté. Comment il traduit minaklal ici?
Communauté.
Très bien. Lachen, c'est pour ça. Itkaven, les yached ou les dof kabo itbarer. C'est pour ça, que quand une personne fait la Torah et Mitzvot, on a dit que la kavana était très importante. La kavana, c'était les ailes. Donc jusqu'à présent, on a parlé d'une kavana personnelle. Kavana personnelle. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je crains Dieu? Bon. L'amour, on n'a pas tellement développé. On a développé surtout la crainte. L'amour, on développera après. Fin du chapitre 41, fin du chapitre 42 et chapitre 43. D'accord? On n'a pas encore développé. Mais, on a compris que, c'était toujours personnel. C'était moi qui aime Dieu, moi qui crains Dieu. D'accord? Ça tombe toujours autour de moi. Là, on va parler de nouvelle chose, c'est quoi? C'est les yached, les chenit kaven. Quand une personne fait une mitzvah, il doit avoir une kavana supplémentaire. Et on nous le demande. C'est pas que la Mourazaka nous le dit, c'est, on nous le demande. D'avoir la kavana, les yached, écoutez bien, on va avoir beaucoup de termes kabbalistiques maintenant, mais on va les expliquer. Les yached ou les dof kaboit barer. Ma kavana doit être la suivante. D'unir et d'attacher chez Akadosh Baruch Hu. Et mes corps nafsho, écoutez bien, on va avoir des termes très bizarres. Et mes corps nafsho, donc mes corps nafsho elokit, la source de mon âme divine, ou mes corps nafshot kal Israël est la source des âmes de tout Israël. Chez où Ruach Pi Vidbarer, que ça c'est Ruach Pi Vidbarer, le souffle de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, on a beaucoup de termes. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Apparemment, donc on va nous parler du Lechem Ichoud, qui va développer, qu'une personne, quand il fait une mitzvah, il doit avoir la kavana que quand je fais la mitzvah, qu'est-ce qui va se passer? La source des neshamot, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué dans le chapitre 40, que en vérité, à la base, toutes les neshamot font partie d'une seule entité. D'accord? Après, on avait expliqué comment elles se séparaient, nefesh, ruach, neshama, à la fin, on est arrivé à je ne sais pas combien de billions de... Combien de billions on est arrivé de particules de neshamot. Vous dit quelque chose?
Très oui, bien. On va demander à...
Bon.
Ah, il est parti.
Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On dit que... Il faut savoir qu'un juif, quand il fait une mitzvah, le Lechem Yichud, c'est quoi? On va développer en plusieurs lignes, mais le concept du Lechem Yichud, c'est quoi? C'est qu'en vérité, quand je fais une mitzvah, c'est pas seulement moi qui bénéficie de cette mitzvah, mais c'est, comme il dit ici, le Yachad ou le Dov Kavodva, mais quand Nafshe Elokit. On va dire la maison mère de Maneshama, ça veut dire la source de Maneshama, la source, il y a une source pour tout le monde, cette source-là va se lier avec Akadosh Baruch. Ça veut dire quoi? On comprend pas du tout ce qu'on veut parler. Enfin, il explique. Shehu Ruach Pi Vidvarer Anikra Beshem Shrina. Qu'est-ce qu'on dit dans le Lechem Ichud? On dit Lechem Ichud Kut Shabrichu Ushrinte. Pourquoi je fais la mitzvah? Je fais la mitzvah pour unir Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça, imaginez, on a l'impression qu'ils ont des problèmes de Shalom Bayit, d'accord? Et que nous, quand on fait une mitzvah, on va faire le Shalom, on va les unir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire? Ichud Kutchabrichu Shrinte, unir à Kadosh Baruchu et sa Shrina. Alors Morazakan il explique. Il dit que quand on parle de Shrina, c'est quoi Shrina? De manière générale dans la Torah, on a vu juste avant Rosh Hashanah, on avait eu un cours dans lequel on avait parlé un petit peu aussi du concept de Shrina. C'est quoi le concept de Shrina? Le concept de Shrina, c'est Al-Shem Sheshochenet ou Mitlabeshet, Torkol Almin, la Chayotan ou le Kaiman. La Shrina. C'est ce qui va descendre, qui va résider, et qui va s'habiller dans le monde ici-bas. Dire comme ça. Vous avez remarqué qu'il est appelé ici Ruach Piv, le souffle de la bouche de Kadosh Baruch Hu. Quelle est la différence, on l'avait appris il y a quelques semaines, entre la parole et la pensée? Quelle est la différence entre la parole et la pensée? C'est que la parole, c'est ce que je sors à l'extérieur, c'est ce que je veux bien dire, donc je réfléchis, je pense mes mots, je calcule mes mots, alors que la pensée, c'est ce que je pense au fond de moi. Et... Heureusement qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense.
Exactement, on ne parle pas toujours d'expression de la parole.
Heureusement qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense, parce que c'est ça ce qui fait qu'on peut vivre dans ce monde, sinon ce monde serait une jungle. Oui, si on disait chacun ce qu'on pense, le monde n'aurait pas tenu. C'est la différence entre Dibour et Marshava. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire la parole d'Akadosh Baruch Hu? Ça c'est écrit. Dieu a parlé, Dieu a dit, comme on dit aussi, ouvoir pif kol sevan. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a créé toute l'armée, toutes les armées du ciel, les armées de la terre, c'est appelé comme ça dans le Tehilim, les armées, il les a créées, Beruach Piv, avec le souffle de Piv, de sa bouche. C'est quoi ce concept-là, quand on parle du souffle de la bouche? C'est quoi cette histoire? Pour expliquer cette différence, il faut expliquer, comme j'ai expliqué, la différence qu'il y a entre la parole et l'action. La différence entre la parole et la pensée. C'est que la parole, c'est ce que je développe vers l'extérieur, alors que la pensée, c'est ce que je pense au fond de moi. De la même manière, chez Akadosh Baruch Hu, on a ces deux niveaux. C'est ce qu'on appelle le niveau de Memale Kol Almin et Sovav Kol Almin. On aura l'occasion d'expliquer longuement ces deux niveaux-là, qui sont ramenés très souvent dans le Zohar, dans le chapitre 48 et 49. On a déjà parlé rapidement, mais on aura l'occasion de les développer longuement. Mais je vais juste vous expliquer brièvement, c'est quoi la différence entre Memale Kol Almin et Sovav Kol Almin. Mais Memale Kol Almin, c'est Akadosh Baruch Hu, tel qu'il descend dans le monde ici-bas. Tel qu'il est présent dans le monde ici-bas. Pour vous donner un exemple, par exemple, j'ai un verre de coca devant moi. Ce verre de coca, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. S'il n'y a pas la parole d'Akadosh Baruch Hu qui le maintient constamment, il ne peut pas être là. Seulement, puisque c'est pas la pensée d'Akadosh Baruch Hu, c'est la parole, ça veut dire qu'au final, au produit fini, c'est pas exactement la même chose que ce qu'Akadosh Baruch Hu pensait. Ça veut dire, en tout cas, on le voit pas de la même manière. C'est ça ce que ça veut dire la parole de Dieu. Ça veut pas dire que c'est pas Akadosh Baruch Hu. Mais ça veut dire que quand nous on regarde le produit fini, on voit pas tellement que c'est de la divinité.
On a dit que c'était plus fort encore.
Très bien, pas de problème. C'est pas une contradiction. Non, on a dit que pour arriver ici, il faut prendre une force qui est plus forte. Il y a pas de contradiction.
On ne voit pas le parallèle avec l'homme. C'est vrai que c'est abstrait pour Akadosh Baruch Hu. On peut penser qu'il n'y a pas de différence entre la parole et la pensée au niveau de Dieu.
On l'a même dit dans l'intérieur.
Justement. Il y a pas de différence. Akadosh Baruch Hu, ni n'a de parole, ni n'a de pensée. Très bien. Donc le Zohar explique qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec sa parole. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde de la même manière que quand une personne dit quelque chose, il peut dire quelque chose qu'il ne pense pas. Ça veut dire que la parole peut être séparée de ce que je pense.
D'accord.
Alors qu'une, pense...
on arrive à...
Alors qu'une pensée ne peut pas être séparée de ce que je pense. Penser, une pensée, c'est ce que je pense, c'est moi.
D'accord.
D'accord. Je peux
au
pas
niveau
penser.
De l'homme, on arrive.
Très bien. Alors, la même manière chez Akadosh Baruch Hu, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la parole, c'est une métaphore pour nous expliquer que dans le résultat fini, dans le produit fini, au final, c'est plus visible, d'accord, on ne voit plus en bas que c'est un produit qui vient de chez Akadosh Baruch Hu. Alors qu'en vérité, qu'est-ce qui fait vivre ce verre de coca devant moi? C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu.
Vous êtes voilé.
Oui, ça a été voilé, ça on a expliqué longuement, d'accord, dans les chapitres 36, 37, 38, on a expliqué comment ça a été voilé avec le temps, il n'y a pas de problème. Mais dans les faits, on appelle ça la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Memale Kol Almin. Memale Kol Almin, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, tel qu'il descend dans le monde.
Tel qu'il est présent.
Tel qu'il est présent dans le monde. C'est comme, on amène en Chassidut un exemple, on dit c'est comme un maître avec son élève. Si le maître veut que l'élève comprenne, il faut que le maître descende au niveau de l'élève.
Exemple.
D'accord. Par exemple,
c'est un exemple.
Si on a par exemple un grand tzadik, d'accord, un grand gaon, que même ses élèves ont du mal à comprendre, il va venir un jour au cheder pour enseigner la Torah à des enfants de 5 ans. S'il va leur enseigner la Torah à l'état brut tel qu'il la comprend, ils vont rien comprendre. Ça sert à rien.
Par exemple.
D'accord. Donc, comment il doit faire? Il doit descendre au niveau de. Il doit descendre au niveau de ses élèves. C'est ça ce qu'on appelle Memale Kol Almin. Ça veut dire qu'au final, l'élève, quand il va rentrer chez lui à la maison, son père va lui dire, alors, j'ai entendu qu'il y a un grand gun qui vient vous donner un chiot, répète-moi ce qu'il a dit. Bon, l'élève, il va répéter. Et rêve top. L'élève va répéter, d'accord? Et son père va dire, mais c'est ça ce qu'il vous a dit, le grand gun, il n'y a rien de spécial. Et c'est vrai que tel que l'enfant va répéter, il n'y a vraiment rien de spécial. D'accord? Seulement quoi? Parce qu'en vérité, le maître est descendu au niveau de l'élève. Donc pour reprendre mon exemple, quand je vois le verre de coca devant moi, je ne vois plus que c'est de la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde par sa parole. Ça c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, ça représente le monde de Memale Kol Almin. On expliquera ça longuement dans le chapitre 48. D'un autre côté, on a le monde de Sovev Kol Almin. Sovev Kol Almin, ça veut dire la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde. La lumière d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde. Ça veut dire une lumière qui, en vérité, qui ne s'est jamais réellement adaptée aux limites, qui ne s'est jamais confinée aux limites de la création de ce monde-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle Sovav Kol Almin. Par exemple, un exemple où on peut donner ça, voilà, on va faire Birkat HaChama dans 2 jours, on dit la lumière du soleil. La lumière du soleil, elle ne s'adapte pas par rapport à la personne qui va la recevoir. C'est pas que, on va te dire, la lumière du soleil ne s'adapte pas par rapport à moi. C'est-à-dire, c'est pas qu'une personne qui a un problème avec les yeux, qui a du mal à voir, d'accord? Il lui faut des lunettes de soleil. C'est lui qui va mettre des lunettes de soleil, c'est pas le soleil qui va s'adapter à lui. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure du maître et de l'élève, c'est le maître qui va s'adapter à l'élève. Ça, c'est Memale Kol Almin. Dans l'exemple du soleil, le soleil est clair. Celui qui veut, il profite. Celui qui veut fermer sa fenêtre, il ferme sa fenêtre. C'est pas mon problème. Moi, je donne la lumière. Celui qui veut, il prend. Ça, c'est un exemple quand même en chassidoute pour expliquer le concept de... On a la page 71 David chez toi. Pour expliquer le concept de Sovev Kol Almin. Donc Memale Kol Almin, Sovev Kol Almin. La parole de Dieu et la pensée d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ça aussi quand on nous dit que Israël ont été créés par la pensée d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'on nous dit d'un autre côté que le monde a été créé par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Yves, tu as posé une bonne question, tu as dit c'est quoi la différence entre la pensée et la parole d'Akadosh Baruch Hu? Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est qu'en vérité, c'est une métaphore pour nous montrer que dans le produit fini, le monde tel qu'il est visible, on ne voit plus que c'est la parole de Dieu, alors que Israël, puisqu'on nous dit qu'ils viennent de la pensée d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que même dans le produit fini qui est un juif, on peut voir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est la différence entre la pensée et la parole d'Akadosh Baruch Hu. Très bien.
D'accord.
Alors maintenant, on va revenir à notre sujet. D'accord. C'est quoi le concept de Yichud Kutcha Brichu Shrinte? On a dit que Avant de faire une fila, on dit les Shem Yichud Kutcha Brichu Shrinte pour... Pourquoi je fais la mitzvah? Je fais la mitzvah pour unir Dieu et sa Shrina. On a l'impression qu'ils ont des problèmes de Shalom Bayit. Attendez, c'est pas fini. On dit après Beshem Kol Israël. Ça veut dire quoi? Je dis, je vais unir Dieu et sa Shrina au nom de tout le peuple juif. Qui t'a demandé l'heure? Au nom de tout le peuple juif, on t'a nommé. Chaque personne, quand on dit le Shem Yichud, c'est ce qu'on dit. Je sais pas si vous vous rendez compte, quand on dit le Shem Yichud, on dit ça. On dit, on va unir Dieu et sa Shrina au nom de tout le peuple juif. Alors, ni on a compris ce que c'est unir Dieu et sa Shrina, et ni on a compris ce que c'est au nom de tout le peuple juif. Qui t'a demandé l'heure? C'est quoi Kutcha Brichu ou Shrinte? C'est quoi quand on dit Dieu et sa Shrina?
Des explications, en dehors du Tania.
Oui.
Des explications par rapport à
à le Shemichut.
Oui. Il y en a certainement dans le Talmud. Est-ce que c'est où?
Non, le Shemichut, c'est une phrase qui vient du Zohar. Explique le Zohar.
Donc finalement, on fait la tefila, il n'y a pas l'explication, on la trouve que dans le Zohar par rapport à ça.
Si tu passes par le Zohar, tu ne comprends pas.
C'est ce que je comprends. C'est-à-dire que finalement, si on ne s'attache pas à cette explication, on n'arrive pas à comprendre.
Tu ne peux pas comprendre, impossible.
Tu ne peux pas comprendre. C'est
des traductions. Le Shemichut, Kutcher, Ichou, Shrinte, je fais cette mitzvah pour unir Dieu et Sashrina.
Donc c'est incompréhensible.
Unir Dieu et Sashrina.
On peut tourner dans sa tête, on comprend pas.
Et pas seulement ça, Béchem Kol Israël au nom du peuple juif.
Traduction. Alors,
j'ai pas compris, unir quoi? C'est moi qui dois m'unir avec Dieu. Dieu qui s'arrange en haut, que tu me veux, c'est pas de ma faute, ils ont qu'à s'arranger en haut, que tu me veux. Là, on a expliqué. Avec ce qu'on a expliqué, on peut comprendre. C'est quoi, hein? On a expliqué que c'est quoi Shrinte, c'est quoi la Shrina d'Akadosh Baruch Hu? La Shrina d'Akadosh Baruch Hu, ou Shrina, ça vient du mot résider. Ça veut dire Dieu, tel qu'il réside en bas et tel qu'il s'adapte à la matière. Pour reprendre l'exemple de mon verre de coca, ça veut dire, c'est quand je vois le verre de coca, est-ce que je vois la lumière de Dieu? Non. Pourquoi je vois pas la lumière de Dieu? Parce que Dieu s'est habillé. Dieu s'est habillé entièrement dans ce verre de coca, ce qui fait qu'il s'est tellement habillé dans le matériel, qui fait qu'au final, on voit même plus que c'est la parole d'Akadosh Baruch
Hu. On peut le voir ou pas?
Si on s'élève au-dessus de ce monde, on peut le voir.
Non, on voit même plus que c'est la pensée d'Akadosh Baruch
Hu. Maintenant, ça c'est Shrinte.
Donc Shrinte, c'est même
à l'école ami. C'est quoi Kulcha Brichu? C'est quoi Akadosh Baruch Hu? Kadosh en hébreu, ça veut dire saint. Mais Kadosh en hébreu, ça veut dire aussi séparé. On sait que dans la paracha Kedoshim...
Mugdal.
Vous savez qu'il y a une paracha qui s'appelle Kedoshim. On nous dit Kedoshim Tiyu. Dieu, c'est un ordre qui donne au peuple juif. Il dit Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu, ça veut dire, ça devrait se traduire a priori par vous serez
saint.
Comment il traduit Rashi? Comment il traduit Rashi Kedoshim Tiyu? Rashi dit, et vous prouchi min ha'arayot, séparez-vous min ha'arayot de l'adultère. Min ha'arayot de l'adultère. Ça veut dire que de là on apprend, et en vérité c'est pas le seul endroit, on voit que le mot kadosh en hébreu veut dire aussi séparer. Séparer. Bon. Donc, Shrinte, on a dit c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu tel qu'il descend et qu'il s'adapte. Il s'adapte au monde. Ça veut dire que à tel point qu'il s'adapte qu'on ne voit même plus que la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. C'est quoi Kulcha Brichu? Dans Kulcha Brichu, on a le mot kadosh. Kadosh qui veut dire séparer. Ça veut dire Dieu tel qu'il sépare le monde. Ça veut pas dire qu'il rentre pas dans le monde. La meilleure traduction qu'on peut donner, ça veut dire que Dieu, il transcende le monde. Il est là, mais il est pas là.
C'est Sovev.
Ça, c'est Sovev. Et ça, c'est la pensée d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Dieu dit, je suis là, mais je suis pas là. Quand en Kabbalah, on appelle ça Mati Velomati. Ça veut dire, on dit, il touche et il touche pas. Il est là, il est pas là. Il est là ou il est pas là? Il est là et il est pas là. Ça veut dire qu'il est là, mais il ne s'intègre pas, d'accord? Il ne s'intègre pas aux limites de notre monde. Quand on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on fait? On va unir la parole et la pensée d'Akadosh Baruch Hu. On va unir Kutcha Brichu et Sashrina. Alors ça veut dire quoi? On va expliquer.
Et pourquoi au nom de tout Israël?
Ah, bien sûr, bonne question. Alors, dans les mots. On va reprendre depuis la ligne qui commence. Lachen Itkaven. La ligne commence Itkaven. Vous avez?
Oui.
Voilà. Lachen Itkaven. C'est pour ça qu'il doit avoir la Kavana. Hein. Les yachad ou le davka boidbarech, mais quand navsho elokit, d'unir et d'attacher à Kadosh Baruch Hu. Quand je fais la mitzvah, mis à part les kavanot personnelles, je dois avoir une kavana globale qu'on va développer tout de suite, qui est que quand je fais une mitzvah, qu'est-ce qui va se passer? La racine de mon âme divine et la racine de toutes les âmes d'Israël, chez Oruar Pevitbarech, Anikra Beshem Shrina, que ça c'est le souffle de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que c'est ça ce qui a créé, d'accord? C'est ça ce qui a créé toute l'humanité qu'on a en bas. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Al-Shem Shishor Anikra Beshem Shrina. Pourquoi on appelle ça avec le nom Shrina? Al-Shem Shishor Chenet Umitla Beshet Tor Kol Almin. Parce que c'est ce qui descend et qui va s'habiller, qui va s'adapter aux limites de ce monde. Les Achayotan ou les Kaïman pour les faire vivre et pour les Kaïman pour les maintenir. Vehihi Amashpeet Koar Bokoar Adiburazé Shemedaber Bedivre Torah Oa Koar Amaasazé La Semit Vazo. C'est cette Shrina là qui va me donner la force maintenant de dire des Divre Torah. Ou demain matin de mettre les tefillin. C'est cette Shrina. Parce que c'est quoi la Shrina? La Shrina, ça veut dire la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est descendue dans ce monti, qui s'est adaptée aux limites de ce monti. Donc c'est elle qui va donner à la force à ma main de pouvoir bouger. C'est elle qui va donner à la force à ma bouche de pouvoir parler.
C'est tout, là.
C'est tout, c'est toute l'humanité.
On appelle ça Ruach. D'accord. On appelle ça.
Ruach Pi. Triunit. Tu as raison, Julien, c'est toute l'humanité. C'est toute l'humanité. Quand j'ai toute l'humanité, ça veut dire que c'est même pas simplement la Terre, c'est tous les astres, toute l'humanité. Toute l'humanité qui a été créée, bien entendu, par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Quand je fais une mitzvah, qu'est-ce que je fais? Je vais unir la parole d'Akadosh Baruch Hu, je vais unir Shrinte, la Shrina de Dieu, avec Ve'ichudze, ou Aliede Amshachat Orantzav Baruch Hu Lemata, Aliede Esek HaTorah Ve'amitzvah. Quand je fais une mitzvah, qu'est-ce que je fais? Quand je fais une mitzvah, ce que je vais faire, c'est que la racine de toutes les Neshamot, c'est-à-dire la racine, la parole d'Akadosh Baruch Hu, à la base, la base, cette base-là, normalement, elle n'est pas liée à Kadosh Baruch Hu. Je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est quand je veux dire qu'elle n'est pas liée à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que cette base-là, c'est la parole de Kadosh Baruch Hu. La parole de Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que quelque part, au final, elle doit s'adapter aux besoins de ce monde-ci. Et c'est pas exactement ce que Kadosh Baruch Hu voulait. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas exactement ce que Kadosh Baruch Hu voulait. Ça a pris une autre forme. Ça peut pas mal comprendre ce que je veux dire. Ça veut pas dire que Dieu ne voulait pas ça. Ça veut dire que, dans les faits tels que ça s'exprime, c'est autre chose que ce que Kadosh Baruch Hu voulait. Bon. Qu'est-ce que je fais quand je fais une mitzvah? Le Rav Tenzal ici donne un exemple très simple. Il dit c'est comme l'électricité. Dans l'électricité, vous avez le plus et le moins.
Un exemple. Hein.
Quand? Vous avez le plus et le moins. Et à quel moment on peut profiter de la lumière de l'électricité? D'accord? C'est quand on fait le...
On ferme le circuit.
Quand on ferme le circuit. Quand on ferme le circuit entre le plus et le moins. Et ça, ce qui fait qu'il y a l'électricité, donc ça explose.
Comme à la maison, quand on ferme la porte, ça explose.
Très bien. Alors... la même manière, c'est la même manière par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est un peu fin ce qu'on va expliquer ici. C'est quoi le Shem Yichud Kut Shem Yichud Shrinte? Dieu, il y a Memale Kol Almin, il y a Sof Kol Almin. Il y a Dieu tel qu'il est descendu en bas, et il y a Dieu tel qu'il est en haut. Et c'est deux fils, il y a un plus, un moins, c'est deux fils différents. Quand moi je fais une mitzvah, qu'est-ce que je fais? Je crée le pont entre les deux.
Pourquoi?
Attendez. Je crée le pont entre les deux, et je fais que toute l'humanité entière s'approche de Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, normalement, le plus est le plus, le moins est le moins. D'accord? Ça veut dire, ce qui est en bas. Ce qui est shrinté, ça descend dans le monde, et c'est tout. La lumière de Dieu n'est pas dévoilée. Quand je fais une mitzvah, qu'est-ce que je fais? Pourquoi on dit que je le fais au nom de tout le peuple juif? C'est pas parce que je le fais au nom de tout le peuple juif. Parce que quand je fais la mitzvah, la racine des neshamot, que je veuille ou que je ne veuille pas, c'est un fait. La racine de toutes les neshamot, il y a un déclic qui se passe. Elle s'attache avec le Kadosh Baruch Hu.
Ouais.
Chaque fois qu'on fait une mitzvah, chaque fois qu'un juif... Eh oui, l'inverse aussi, malheureusement. L'inverse, au contraire. Chaque fois qu'un juif fait une mitzvah, il y a un déclic qui se passe qui fait que toute l'humanité entière s'attache à Kadosh Baruch Hu. Avec ça, on peut comprendre beaucoup de choses. On peut comprendre comment ça se fait que quand, par exemple, je fais une mitzvah, quand je fais une mitzvah, je dis que moi, ici, je vais faire une mitzvah à Paris, et que cette mitzvah, elle va aider les soldats qui sont en Israël. C'est un peu... Ça a l'air d'un peu pas logique, mais on va dire, mettez la tzedaka pour le mérite des gens qui sont en Israël. Bon, on va dire, on a la Emouna, on croit, etc., mais comment expliquer ça de manière rationnelle? Comment expliquer ça de manière rationnelle? En faisant une mitzvah ici, d'accord, je vais aider un autre juif qui se trouve ailleurs. Bon, alors on a l'exemple, d'accord? On a l'exemple très connu du bateau. L'exemple très connu du bateau, c'est une fois il y avait quelqu'un qui était dans sa cabine dans le bateau, et il s'est mis à faire un trou. Il a mis sa personne, il a fait un trou. D'accord.
Non, il a mis les exemples.
Bon. Qu'est-ce qu'il a fait avec les... Non, parce qu'elle est jolie cette histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un trou. Et du coup, il y a l'eau qui commençait à venir dans le bateau. Alors on lui a dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, c'est ma cabine, je suis chez moi. On lui a dit, c'est vrai que vous êtes chez vous, mais Kol Israël Arevim s'est basé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas seul dans ce bateau. Tu es garant de la sécurité des autres personnes qui sont dans ce bateau. C'est-à-dire, même si toi tu veux mourir, c'est pas pour ça que tout le monde doit mourir. Bon. C'est un exemple qu'on amène souvent pour expliquer que quand je vois un autre juif qui fait pas tourner à mitzvah, je suis garant de sa sécurité. L'Admor HaZaken ici, il va plus loin que ça. Parce que dans l'exemple de ce bateau, ça veut dire au final, c'est technique le problème. Parce que comme ma chambre de mon bateau n'est pas isolée, donc si je veux faire un trou, ça va faire que l'eau qui va venir dans ma chambre, elle va aller dans tout le bateau. Mais imaginons qu'il y avait des chambres isolées. Que je fais un trou dans ma chambre et l'eau viendra que dans ma chambre. Il n'y a que moi qui va mourir. Je préserve. Et personne ne doit mourir. Là, dans ce cas-là, ben, on peut rien te dire. T'es chez toi. Bon. Qu'est-ce qu'on te dit? L'Admor HaZaken pousse loin que ça dit. C'est pas ça ce qu'on veut te dire. Ce qu'on veut te dire ici, c'est que, en vérité, tout le peuple juif fait partie de la même neshama. C'est la même neshama qui s'est séparée en plusieurs billions de particules. Mais la force qu'on a, c'est que chaque fois que je fais une mitzvah, c'est pas que moi qui en bénéficie, mais c'est tout l'ensemble des neshamas qui en bénéficient. Alors, en quoi il en bénéficie? Il en bénéficie dans le fait que, au moment où je fais une mitzvah, la source des neshamas, qui est la parole d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? La source de l'âme vitale, donc comme t'as dit Julien, du monde entier, qui est la parole d'Akadosh Baruch Hu, il y a un déclic qui va se faire, elle va se lier avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui fait que quand moi je fais une mitzvah, je peux aider un autre juif qui n'est même pas en train de faire la mitzvah, qui est en train de faire autre chose. Quand moi je fais une mitzvah, je vais aider un autre juif qui est en Israël par exemple. Pourquoi? Comment c'est possible? Parce qu'en vérité, c'est pas simplement qu'on est dans le même bateau. C'est que on est tous dans la même cabine. En vérité, on est tous dans la même cabine. Seulement après, il y a eu chacun qui s'est pris ses petites habitudes, chacun qui a pris son petit coin dans la cabine. Mais on est tous dans la même cabine.
D'accord, mais en quoi tu veux lire la parole et la pensée à ce moment-là?
La parole et la pensée, c'est quoi? La parole, ça représente Akadosh Baruch Hu tel qu'il est descendu en bas. À tel point que quand il est descendu en bas, hein, il s'est habillé, il a pris il a pris la forme du matériel, on ne voit plus que c'est le spirituel.
Non, c'est ça,
d'accord. C'est quoi la pensée d'Akadosh Baruch Hu? La pensée d'Akadosh Baruch Hu, c'est le spirituel en tant que spirituel. Et quand je fais une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un déclic qui se fait entre les deux, qui fait que au moment où je fais la mitzvah, le monde entier devient spirituel. C'est très fort. Et ça explique beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires dans lesquelles on raconte que des fois des tzaddikim, quand ils voyaient quelqu'un faire une mitzvah, ils disaient « Waouh, le monde entier est en extase ». Bon, on a l'impression que c'est un peu exagéré, que où le monde entier? Il n'y a personne, tu t'excites. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui s'est passé. C'est comme ça. C'est une réalité. La réalité est comme ça. La réalité est que quand je fais une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? C'est le monde entier. C'est-à-dire, c'est encore plus fort que la chaîne de production, ce qu'on a expliqué avant. Encore plus fort que ça. C'est le monde entier, c'est toute l'humanité qui monte chez Akadosh Baruch Hu.
Pas que les bénis Israël.
Non. Toutes les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Là, on est resté sur les bénis Israël, mais en vérité, c'est, parce qu'on veut parler de, shrinté par rapport au Neshamot, mais en vérité, c'est le monde entier. Tout le monde entier monte chez Akadosh Baruch Hu. Yichudze, ou elle est dit, alors comment on fait ce déclic-là? Ça nous intéresse. Comment on lit le plus et le moins? Comment on ferme le circuit? C'est quand on fait Torah et Mitzvot. Torah et Mitzvot, c'est ça ce qui ferme le circuit. C'est très très fort.
C'est sûr que la racine des Shavot, c'est la parole de Dieu.
Oui. Quand je parle de la racine... Oui, la racine des Shavot, c'est la parole de la Kadosh.
Rappelle-toi que le Rav Asimov, le fils Lévi,
oui.
Quand il est venu, il pour expliquer ce que c'était que les Shavot d'un juif, il avait expliqué la différence entre le ké et le hé.
Oui, non, attention.
Quand je dis hé,
je vais comprendre ce que tu veux dire. Ils viennent de la pensée d'Akadosh Baruch Hu, mais dans les faits, ils ont été créés par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Les Neshamot ont été créés par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Comment il dit? C'est écrit que Vayehi Adam le Nefesh Chaya, d'accord? C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, donc il a donné une âme à l'homme, le Nefesh, pour vivre, c'est dans la Parashat Bereshit. Comment le traducteur Goum, il dit Ruach Memalela. Ruach, un souffle de parole. C'est pourquoi souffle de parole? Ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu tel qu'il est descendu en bas. Et c'est pour ça que la Nefesh Elohi tel qu'elle est en bas, ben des fois, même si elle a toujours envie de monter chez Akadosh Baruch Hu, mais quelque part, elle prend certaines habitudes. Elle s'habitue à l'endroit dans lequel elle se trouve. Bon. Alors, dans les mots. Veyichudze, c'est bon David, t'as attrapé le train?
Oui.
Veyichudze, ou aliede amshachat orantsov baruch hu le mata aliede at esek a Torah ve a mitzvot. Comment on dit quand on dans l'électricité, quand on fait entre le plus, on ferme un circuit.
Oui.
Donc on dit ce circuit fermé, d'où il vient? C'est quoi? C'est comment le circuit se ferme? C'est par esek a Torah ve mitzvot. C'est quand on fait la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, exactement. Quand on fait la Torah et les mitzvot, c'est ça ce qui ferme le circuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça ce qui explique en vérité quand on dit que l'homme est le centre de la création, ça veut dire quoi? On l'a appris en ce moment dans Kuntras Noumayan. Ça veut dire que tout a été créé par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a créé les astres, Akadosh Baruch Hu a créé les Neshamot, Akadosh Baruch Hu a tout créé. La seule chose qu'il attend, il attend que l'homme va faire la mitzvah. C'est-à-dire qu'il dit à l'homme, j'ai déjà tout créé, le système est déjà créé, j'ai déjà créé la centrale électrique, j'ai tout créé. Tout est là. Maintenant, la seule chose qu'on attend, c'est que toi, tu fasses le circuit entre le plus et le moins, et là, tout va marcher. Et là, ça va exploser. C'est très fort. C'est ce qu'il dit ici. Comment on fait? Comment je fais ça? Je fais une simple mitzvah. Ça, ce qui explique que nous, quand on fait une mitzvah, c'est une question qu'on entend souvent. Ça. On se dit, mais moi, je fais une simple mitzvah. Comment une simple mitzvah peut faire tellement de choses? La réponse est très simple. C'est que ma mitzvah ne crée rien, en vérité. Tout est déjà créé. La mitzvah fait seulement dévoiler, la mitzvah fait seulement que fermer un circuit. C'est ce qu'il dit ici. Irud kutchabrihu ushrinte. Unir Akadosh Baruch Hu avec sa shrina. À l'idée, et sa kator va mitzvah.
Vavke, ça serait yudke, ça serait la pensée de Dieu, et vavke, ça serait la parole de Dieu.
Oui, c'est ça. À l'idée, et sa kator va mitzvot, sheu melubash ba'en. Donc, par la Torah et les mitzvot, la Torah et les mitzvot, c'est eux qui forment le circuit, parce que dans la Torah et les mitzvot, Akadosh Baruch Hu est habillé en eux, veit kaven le am shir oro itbarer, al mekor, nafsho ou nafshot kal Israël le yachada. Avec ça, on va comprendre pourquoi, avant de faire chaque mitzvah, on dit les shem yichud. Jusqu'à présent, on parlait toujours, on était un petit peu égoïste, j'ai envie de dire. Et on parlait toujours de le combat que j'ai avec mon Yitzhara, mon Yitzhar Tov, et ma crainte de Dieu, et mon amour de Dieu. Là, on va s'écarter un petit peu. Là, maintenant, on va parler sur un plan général, un plan global. Excuse-moi, j'ai deux secondes. Que quand on fait une mitzvah, quand on dit le Lechem Yichud, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, mis à part les kavanot qui sont importantes, il faut réfléchir comment, avant de faire la mitzvah, je dois penser à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais à part ça, selon le Zohar, on nous dit qu'il faut penser aussi, comment, quand je fais une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais une mitzvah, je vais, même si ça m'intéresse pas, a priori. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, mais ça, j'en ai rien à faire, moi. Écoutez, avec vous, je me dis, c'est en haut, ça m'intéresse pas. Dans les faits, le Zohar te demande de penser à ça parce que c'est un fait, ça va se passer. Quand tu vas faire une mitzvah, Dieu, quand je dis Dieu, ça veut dire la pensée d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde mais qui n'intègre pas le monde, elle va se coller, elle va s'unir avec Shrinte qui est la lumière, la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est descendue en bas et qui a intégré la lumière d'Akadosh, qui a intégré le monde. Et c'est pour ça que, c'est pour ça qu'on dit...
Sa présence.
Oui, sa présence. C'est pour ça qu'on dit, là, d'après ce qu'on vient de dire ici, je retraduis par intégration. Il y a la lumière de Dieu qui transcende le monde, et la lumière de Dieu qui intègre le monde. C'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'on va, avec temps, comprendre pourquoi quand je fais la mitzvah, je dis Bechem kol Israël, au nom du peuple juif. C'est pas parce que je veux être le porte-parole du peuple juif. C'est parce que c'est un fait. Le fait est là. Quand tu fais une mitzvah, la racine de toutes les neshamot va monter chez Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je dis Bechem kol Israël, au nom de tout le peuple juif. Bon. Alors qu'est-ce qui continue? Dit, comme on va expliquer donc, dans la suite du Pérec, plus en détail, le concept de cette kavana. On va expliquer tout de suite. Vous allez voir que ça, cette kavana cache beaucoup, beaucoup de choses qu'en vérité, c'est vraiment accessible à notre niveau. D'accord, donc Ayen Sham, on va regarder ça ici. Ok. Julien, tu avais une question?
Tu as répondu partiellement, mais... Le Lechem Yichud, c'est uniquement pour nous aider à prendre conscience. Ça n'influe pas, j'ai envie de dire, sur ce circuit-là.
Non.
C'est quelque chose qu'on dit pour ce... C'est ça?
Oui, ben, c'est un bon point ce que tu dis. Ça veut dire que qu'on le pense ou qu'on le pense pas, le fait est là. D'accord?
Juste une question très rapide. C'est que, tu sais, quand on avait parlé des étincelles de Doucha qu'on faisait remonter quand on fait une bracha.
Oui.
Est-ce que ces étincelles-là correspondent à cette Shrina qui s'est habillée dans le monde et qu'on fait remonter pour en unir en quelque sorte?
Non. A priori, non. Ça, c'est déjà plus en détail.
D'accord.
C'est-à-dire que ça, c'est plus en détail. Par exemple, tu veux dire, le verre de coca, le verre de coca va monter chez Akadosh Baruch Hu. Là, on parle d'un point beaucoup plus global. On parle que Ruach Piv, la parole d'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, d'accord? Donc c'est une grande parole qui a créé le monde. Cette grande parole-là va monter chez Akadosh Baruch Hu.
Donc les étincelles, c'est autre chose.
Ouais. C'est-à-dire qu'on ferme le circuit. Quand un juif fait une mitzvah, il ferme le circuit. Zéou Pirouch, Lechem Ichut Kutchabrichu, Shrinte, Bechem Kol Israël. Ça, c'est l'explication de l'Hashem Ichud Kutchabrichu. Quand on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on dit? On dit que je fais la mitzvah pour unir à Kadosh Baruch Hu et Sashrina, Beshem Kol Israël, au nom du peuple juif. Donc demain, quand on fera l'Hashem Ichud Kutchabrichu, Shrinte, il n'y a pas ce soir. Dans l'Arvit, il n'y a pas. Hein?
Non.
Chez les Sfaradim, il n'y a pas.
Moi, non, mon bouquin, il me marque H avant chaque prière.
Avant chaque prière?
Ouais.
Mais avant l'Arvit?
Je te promets, avant tout.
Ah, c'est bien.
Avant même avant Birkat.
Dans le Minag Rabat, on fait le Hashem Ichud qu'une fois par jour. On le fait avant le Baruch Shamar, je le fais à voix basse. On dit qu'une fois par jour, c'est suffisant et ça rend quitte pour toute la journée.
On le fait pour le kidouche, on le fait pour des choses comme ça.
Bon. Mais à quoi ça sert? Justement, c'est ça le problème. C'est que quand tu lis la traduction du Lechem Yichud, tu comprends pas. Jusqu'à présent, toujours quand on parle de Kavana, on parle de entre l'homme et Dieu. Quand je fais la mitzvah, ça va amener une crainte de l'homme envers Dieu, un amour de l'homme envers Dieu. Mais là, on parle de unir Dieu et sa Shrina. Ça se passe en haut, ça me concerne pas, moi. Et arrangez-vous en haut, qu'est-ce que vous me prenez la tête ici? J'ai déjà des soucis comme ça. C'est vrai, on comprend pas, on dit, mais attends, c'est nous qu'on a des soucis en bas, les malachim en haut, Dieu et sa Shrina, ils ont qu'à se débrouiller. C'est quoi, il y a une guerre en haut, c'est quoi cette histoire? Là, on a expliqué. Donc, en vérité, c'est quoi la différence entre Ichut, c'est quoi la différence entre Kutchabrichu et Shrinte? Kutchabrichu, c'est Akadosh Baruch Hu tel qui descend en bas, d'accord? Et Shrinte, Kutchabrichu, c'est Akadosh Baruch Hu tel qu'il est en haut, tel qu'il ne descend pas, tel qu'il transcende le monde, mais il ne l'intègre pas. Alors que Shrinte, c'est Akadosh Baruch Hu tel qu'il intègre le monde. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une mitzvah? Quand on fait une mitzvah, on va fermer le circuit entre les deux. Alors, c'est intéressant, parce que vous savez, dans l'histoire de Rachel et Léa, on sait que Yaakov voulait se marier au début avec Rachel, et au final, après, il y a eu un problème avec Laban, et après, il s'est marié avec Léa, d'accord? Et après, en fin de compte, il s'est marié aussi avec Rachel. Le Zohar s'arrête énormément sur Rachel et Léa. pour essayer d'expliquer qu'est-ce que ça représente Rachel et Léa spirituellement. Déjà, le Zohar nous fait remarquer, par exemple, on voit que jamais dans la Torah, on nous a raconté que Yaakov s'est accroché avec Léa. C'est jamais accroché avec elle. Il s'est jamais accroché avec Léa. D'accord, c'est accroché avec Réhouven, c'est pas de la faute de Léa. La Torah ne nous raconte jamais que Yaakov s'est accroché avec Rachel, avec Léa, pardon. Alors qu'avec Rachel, plusieurs fois on raconte qu'il s'est accroché. Par exemple, quand elle lui a dit prie pour que j'ai des enfants. Ou bien un autre exemple encore, c'est quand Rachel avait volé les idoles de son père. D'accord, de Lavan, il s'est énervé. C'est écrit Vaïchar Af Yaakov vers Rachel. Il s'est énervé. C'est écrit Vaïchar Af, ça veut dire que sa colère s'est enflammée. D'accord. Af, dans le mot Af, il y a le nez aussi. C'est pour ça que les gens, quand ils s'énervent très fort, ils ont le nez qui rougit. Non, je plaisante.
Non, peut-être raison.
Peut-être que j'ai raison.
Peut-être raison.
Bon.
C'est quand ils boivent.
Ouais. En général, on dit c'est quand ils boivent qu'ils ont le nez qui rouge.
En général, les gens, quand ils s'énervent, je sais pas, on n'a pas le temps de voir leur nez.
C'est possible, c'est déjà mort. Quand
même. Non, il y a des... Par exemple, quand on a honte, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on a honte, le premier os qui sent la honte dans le corps, c'est les oreilles.
Ouais.
Vous avez remarqué ou pas?
Oui.
Les oreilles rougissent en premier dans le corps.
Oui, exact.
Ouais. Faites attention, vous verrez. Quand vous avez... Quand on vous blesse, vous ressentez le mal en premier lieu dans les oreilles.
Exact.
Vous sentez que les oreilles rougissent, après c'est le reste du corps qui suit.
Alors que c'est au début.
Bon, c'est pour ça que je dis que chaque membre a...
Seulement, ouais.
Ah oui, c'est pas pour rien. Rêve top.
Non, cela provoque, là. Mais pas du tout
Désolé,
je vous ai chopé la place.
Et ils ont tout mangé, la dame Proust.
La dame Proust, ils sont pas...
Je suis désolé. Je suis quand même venir...
Il y avait une réunion, c'est ça?
Ça compte le temps, j'ai dit.
Ah, je vous en prie.
Réunion familiale, certainement.
Ma chocolade.
Donc, Bézé ou Pirouche, les Shem Ichut, Kuchav Ichut, Shrinte, Beshem Kol Israël. Bon. Donc, avec ce point-là, on a expliqué que. Donc, j'étais en train d'expliquer Rachel et Léa. Rachel et Léa. Donc, on a dit que. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Zohar explique qu'on remarque que Yaakov, il s'accroche souvent avec Rachel.
Et pas avec Léa.
Alors qu'il s'accroche jamais avec Léa. Zohar, il continue. Vous savez, dans le Tikkun Chatzot. Ceux qui connaissent, c'est le Tikkun Rachel et le Tikkun Léa. Très bien. De quoi on parle dans le Tikkun Rachel? Dans le Tikkun Rachel, Tikkun Rachel, de quoi on parle? On se met à pleurer à Kadosh Baruch Hu, on dit à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à quand on va rester en galoute, on en a marre de l'exil, c'est pas bien, etc. C'est le Tikkun Rachel. Vous pouvez voir, je sais pas si c'est dans le patar, mais... Tikkun Léa, c'est quoi?
On prend pas le patar.
Tikkun Léa. C'est quoi Tikkun Léa? Tikkun Léa, c'est plus le contraire. Si on explique comment les Neshamot sont près d'Akadosh Baruch Hu, et comment c'est bien d'être un juif, on vraiment, minakatsé à la katsé d'un bout à l'autre. Tikkun Rachel, Tikkun Léa. C'est pour ça que le Shabbat, quand on fait Tikkun Chatzot, on fait pas Tikkun Rachel, on fait que Tikkun Léa. Explique le Zohar, ça c'est l'Admor HaZaken qui explique dans l'écoute de Torah, enfin il se base sur le Zohar. Il dit, c'est quoi la différence entre Rachel et Léa? C'est la même différence qu'on a entre
Kutchav
Richou ou Shrinte.
La parole, la pensée.
Rachel, ça représente Akadosh Baruch Hu tel qu'il descend en bas, tel qu'il descend dans le monde ici-bas. Et donc, puisqu'il descend dans le monde ici-bas, il y a des frictions.
Ouais.
Ça marche pas. Léa, d'un autre côté, ça représente quoi? Léa, ça représente Akadosh Baruch Hu tel qu'il est plus haut que le monde. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais de souci, il n'y a jamais d'embrouille, puisque de toutes les façons, il transcende le monde. Bon. Ça, c'était une parenthèse. Av Sheliot Kavanaz. Donc là, on est... Mais Av Sheliot Kavanaz.
Tout ça pour dire que Yaakov, il avait uni les deux.
Tout ça pour dire qu'il y a force de Yaakov, c'est qu'Yaakov a uni les deux.
Pourquoi il avait préféré...
C'est pour ça, en passant, il explique le... bonne question.
Parce que lui, c'est déjà en haut, lui.
Parce que lui, Yaakov, il avait compris, il explique l'Admor HaZaken, Yaakov avait compris que son travail, c'était dans le Tikkun, il devait arranger le monde en bas. C'est pour ça qu'il voulait travailler avec Rachel. C'est pour ça, l'Admor HaZaken, il explique quelque chose de très fort. Il dit qu'on remarque qu'il y a des gens, pendant la galoute, qui sont arrivés à un niveau de rapprochement à Kadosh Baruch Hu, plus fort, pendant l'exil, que ce qu'on a eu pendant l'époque du Beth Amikdash. Par exemple, le Zohar. La majorité du Zohar a été écrit après le destruction du Beth Amikdash. Le Harizal, il a écrit son commentaire. Quand il a écrit son commentaire, c'est en galou. C'est des choses qu'on n'a pas eues à l'époque du Beth Amikdash.
On ne sait pas ce que c'est.
Et il explique ça.
Avant, il y avait déjà des...
Bon, c'est un long commentaire que je vous...
On n'a pas
balance en deux secondes.
Oui.
On n'avait pas besoin de
le. C'est juste une parenthèse. Avec ça, il explique qu'en vérité, la différence qu'il y a entre le. Avant que le Batamigdash était détruit, et ouais. Après, c'est quoi? C'est que maintenant que le Batamigdash était détruit, on n'a que Rachel. Et il y a des qualités dans Rachel. Avant, Rachel était toujours calmée par Léa. Était toujours balancée par Léa. Maintenant qu'il n'y a pas le Batamigdash, on n'a que Rachel. Et il y a des qualités que Rachel a, de dévoilement dans le monde ici-bas, que Léa n'a pas. Bon, il y a un long commentaire pour expliquer ça. Je referme ma parenthèse. Donc, on a expliqué que, mis à part la Kavana, j'ai envie de dire égoïste, que l'homme va avoir quand il fait une mitzvah. D'accord? C'est-à-dire que je veux m'approcher de Dieu, ou je crains Dieu, même si la crainte c'est pas égoïste, mais ça veut dire que ça tourne quand même autour de moi. On a expliqué qu'à part ça, c'est très important, le Lechem Ichoud. C'est quoi le Lechem Ichoud? C'est Al Yotzi Adam Atmo Minaklal, de savoir qu'on fait partie d'un klal, on fait partie du klal Israël. On a expliqué longuement comment, quand je fais une mitzvah, c'est, je suis pas le seul à en bénéficier, c'est tout le klal Israël, et ça serait même le monde entier, toute l'humanité entière qui en profite. On a expliqué comment, quand je fais une mitzvah, je ferme le circuit entre Kutcha Brichou et Shrinte.
J'ai plus qu'à attendre alors.
Tu n'as plus qu'à?
Qu'à attendre.
C'est-à-dire?
Parce que les autres font les mitzvot pour moi.
Non, mais il y a beaucoup de circuits à fermer.
Non, parce
que, inquiétant,
ou le contraire, on est tous interrupteurs, ils ont beau s'exciter, de toute façon, tant que je ne ferme pas le mien, le courant passera pas.
Ça peut aussi être ça.
Ouais, c'est vrai.
C'est un autre côté pour dire, soit pour que ça soit un élément de motivation, soit un élément de démotivation, ça dépend comment on voit.
Ah, bien sûr. Mais dans les faits, le Shemir Houd, il est là, on le dit.
Tant qu'il y a un interrupteur qui n'est pas abaissé, ça ne marche pas.
Le courant, il ne passe pas.
Un seul.
Un seul. C'est-à-dire, soit ça me donne... Je comprends que ma responsabilité est très importante, et donc je peux pas m'amuser. Je lui dis, attends, qu'est-ce que je me casse la tête? Il y en a tellement qui vont pas le fermer l'interrupteur, un de plus ou un de moins, sans le courant passera pas.
Ouais. Ah, le Morazaken il continue, il dit, Av Sheliot Kavanazo. D'accord. Le Morazaken il continue, il dit, bien que là tu me parles d'une Kavana, déjà, la semaine dernière on a parlé de l'importance de craindre Dieu, d'aimer Dieu, c'était déjà pas facile. Là maintenant, tu me dis qu'à part ça, il y a le Lechem Ichoud, et tu m'as expliqué c'est quoi le Lechem Ichoud. Le Lechem Ichoud, ça veut dire que, non seulement que tu penses que tu fais une mitzvah en craignant Dieu et en l'aimant, mais à part ça, tu m'as dit le Lechem Ichoud, c'est-à-dire que je fais une mitzvah en pensant au clan Israël. Mais il dit, mais, c'est pas pour nous, ça. On est loin, ça, c'est pour les tzadikim. Dans les faits, on le dit le Lechem Ichoud, ça veut dire que c'est pour nous. Il pose la question, il dit, mais ve'af sheliot kavanazo, amitit belibo. Bien que, pour que cette kavana, la Kavana qu'on vient d'expliquer, qu'on explique le Lechem Ichoud, en réalité, le concept du Lechem Ichoud, on a expliqué longuement, c'est un concept très très fort. Ce concept du Lechem Ichoud, pour que cette Kavana soit réelle dans mon cœur, Sheyeh libo chafet behemet Ichoud haElyon hazé. Que mon cœur veuille vraiment cette union entre Kutcha Brichou et Shrinte. Si maintenant je viens, je vous demande, je vous dis, bon, est-ce que ça vous intéresse que Kutcha Brichou et Sashrina vont se lier? Vous allez me dire, bon, pourquoi pas, ça me coûte pas d'argent. Ça me coûte rien, avec plaisir.
Ça coûte d'argent, souvent.
Très bien. Mais la question qu'il pose de Morazaken, il dit, est-ce que tu vas être capable à donner ta vie pour ça? C'est-à-dire, est-ce que tu vas être capable à donner de toi pour ça? Et là, c'est là qu'on se rend compte qu'en vérité, quand on te pose cette question-là, c'est là que tu te rends compte qu'en vérité, ça, je sais pas, ça ne nous parle pas, ça ne nous intéresse pas. Déjà, on a du mal à sentir personnellement comment on craint Dieu et comment on aime. Toi, tu me dis, encore plus que l'amour et la crainte, quand tu fais une mitzvah, il faut penser qu'en haut, Kutcha Brichou et Shrinte, ils vont se lier. Quand l'humanité entière monte chez Kadosh Baruch Hu. Mais comment tu veux que cette kavana-là soit réelle dans mon cœur? Est-ce que c'est possible que cette kavana soit réelle? Chez Elibo Chafet Behemet, que mon cœur veuille vraiment, Ichoud Elyonazé, cette union céleste qui va se passer, qu'a priori, ni je veux voir, ni je veux sentir, ni rien du tout.
Je veux comprendre,
je sais même pas ce que... Ok, tu m'as expliqué ce que c'est.
Iliot Bilbo.
Tsar Iliot Belibo. Dans les faits, on voit qu'il faut dire le Shem Ichoud, ça veut dire quoi? Tsar Iliot Belibo. Ahava Rabba, Lachem Levado, Lasat Nachadru, Alfanav Levan, Velo Leravot Nafshuat Smea Lachem. Il dit que pour arriver à ce niveau-là, il va expliquer après comment c'est accessible à tout le monde. Pour arriver à ce niveau-là, hein, il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Non pas pour assouvir ma soif, mais que j'ai envie de m'approcher d'Akadosh Baruch Hu, mais plutôt j'aime Akadosh Baruch Hu pour lui faire plaisir. Attention, on va expliquer, ça va être très facile à expliquer ici. On a vu ça rapidement dans le Perek Yud. Il y a même une phrase du Zohar, d'accord ? Il y a même une phrase du Zohar, donc au nom du Raya Mehemna. Et là seulement, Kevara Deishtadel Batar Avuy Veime. Même l'exemple, il dit, c'est comme un fils Deishtadel Batar Avuy Veime, qui va s'efforcer pour son père et sa mère, Derachimlon Yatermi Garme Venafshe, qui va les aimer plus Mi Garme Venafshe que son corps D'accord. Garmé, ça vient du garmé en hébreu, ça vient du en araméen, ça vient du mot des os. Yater mi garmé ve nafshé, plus que ses os, donc que son corps ve nafshé et son âme roulé, etc. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit ici le Zohar? Le Zohar, il dit qu'en vérité, c'est quand on dit le Lechem Ichoud, on a tous posé la question tout à l'heure, que quand on dit le Lechem Ichoud, on dit pourquoi je fais la mitzvah? Je fais la mitzvah pour unir Akadosh Baruch Hu et Sashrina. Alors on a dit, mais c'est quelque chose que ni je vais sentir, ni je vais voir, ni ça m'intéresse pas, ça se passe pas chez moi. Morazaken dit, pour arriver à ce niveau-là, il faut que la personne prenne conscience que si je fais une mitzvah, c'est pas pour arriver à un résultat personnel. C'est déjà un niveau, ça. C'est-à-dire, jusqu'à présent, hein, même l'amour et la crainte, c'était déjà un résultat personnel.
Oui.
Parce que, même si tu vas me dire que craindre Akadosh Baruch Hu, tout ne tourne pas autour de moi, mais dans les faits, c'est un résultat personnel. Ça veut dire que je suis en train de construire mon Gan Eden. C'est ça ce que je suis en train de faire. Bon, je travaille, je crains Dieu, tout tourne autour de Dieu, mais dans les faits, je m'occupe de moi. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar, il dit que le niveau ultime, ça, en vérité, c'est le niveau des patriarches, mais on peut l'atteindre chaque fois que nous, on fait une mitzvah.
Il est grand salikim, oui.
Ouais. Mais, il va expliquer que ce niveau-là, on peut l'atteindre chaque fois qu'on fait une mitzvah. Ça veut dire que tout en étant un coq, on peut avoir la sensation de l'aigle. Pour reprendre mon... Oui, c'est ça.
Amen, quoi, la sensation de l'aigle.
Alors, qu'est-ce qu'il dit? On le dit, le Lechem Ichoud. C'est pas les tzadikim qui le disent. Ça veut dire que c'est, ça existe. On nous le demande de le dire. C'est quoi, le Lechem Ichoud? Il dit, l'Admor HaZaken, pour arriver à comprendre le Lechem Ichoud, pour arriver à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, que, en quoi ça m'intéresse d'unir, que du coup de Shabrichou et Shrinte, ils vont se lier. Ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que ça va amener à moi? Il dit que la personne, pour arriver à ça, il doit arriver à un niveau, que la raison pour laquelle il fait la mitzvah, c'est pas parce qu'il a envie d'arriver à un patrimoine personnel, même en craignant Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour ça. C'est pas, par exemple, si on parlerait de l'amour, c'est pas que je fais une mitzvah par amour pour assouvir ma foi, ma soif envers Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas pour ça, c'est seulement la asot nachadroach lefanav, je fais une mitzvah pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Donc je fais ce qui fait plaisir à Akadosh Baruch Hu, peu importe si moi je vais gagner, si moi je vais comprendre, si moi je vais tirer un plaisir ou pas. Si moi je veux comprendre, parce qu'au final je comprends pas.
C'est pas amour quand même.
Oui, mais c'est différent. Il a amené l'exemple d'un fils. On parle d'un fils au top niveau quand même. Hein. Un fils qui va aimer ses parents plus que soi-même. Il y a beaucoup d'enfants comme ça aujourd'hui. Ah, vaille, hein.
Je sais pas si ça existe, mais c'est pas...
Le Zohar, il dit. C'est pas... Le Zohar, il dit comme un fils. L'Ishtadel Batar Avou Yveime. Comme un fils. Dans la Gemara, la vérité, c'est que dans la Gemara, on amène souvent cet exemple. On voit souvent des Talmidim qui étaient prêts à donner leur vie pour leur rave. On le voit, ça. On voit les Talmidim qui étaient prêts à donner leur vie pour leur... C'est une notion qu'on a déjà vue. Bon, le Zohar, il parle d'un fils. Un fils et d'un père. Peut-être c'est ça qu'on parle.
Pourquoi il s'appelle le contraire? Le père, il donne sa vie pour son fils.
Il dit, là, voilà.
Le contraire, c'est toujours...
Il dit que Bara de Ishtadel Batar Avoui Veime, c'est comme un fils qui s'efforce pour son père et sa mère. Des Rachimlon Yater Megarme, qui les aime plus que Migarme Venafshe, c'est-à-dire plus que son corps, Venafshe et son âme. Et c'est ça ce que ça veut dire, plus que son corps et son âme. Ça veut dire quoi, plus que son corps et son âme? C'est ce que je viens d'expliquer. Quelque part, quand on va demander à un juif de faire Messirut Nefesh, on va dire, voilà, t'as une grande mitzvah devant toi, fais une grande mitzvah, ça va te coûter 10 000 euros. Très bien, il va payer les 10 000 euros, ça va lui coûter dans son corps. Mais il va gagner dans son âme. Il n'a pas donné son âme, il a gagné son âme. D'accord?
Oui, mais ça se mesure pas franchement.
Très bien. Non, mais d'accord, mais ça veut dire que... Il n'y a pas de problème, mais ça veut dire qu'il a la emouna.
C'est un investissement dont il pense que ça peut être rentable.
Je ne parle pas du fait est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas. Je dis une personne qui y croit. En effet, je fais une mitzvah, tu me dis, j'ai donné 10 000 euros, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Même si moi j'ai perdu de l'argent dans mon corps, du côté matériel j'ai perdu de l'argent, mais d'un autre côté, Venafché, mon âme, a gagné. Là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'un fils qui aime vraiment son père, il va les aimer plus que son corps et son âme. Ça veut dire quoi?
Il va tout donner.
Comme le Rav Senzès, il raconte une histoire. Hein. Il raconte une histoire, il dit qu'on voit une histoire avec une fois le tzadik, un des tzadikim, il me semble que c'était le Baal Shem Tov, qui est venu dans une ville dans laquelle il n'y avait pas de mikvé. D'accord? Ou le Baal Shem Tov ou un de ses élèves, je ne sais plus c'est qui. En tout cas, c'est autour du Baal Shem Tov. Il est venu dans une ville dans laquelle il n'y avait pas de mikvé. Et bon, il n'avait pas de fonds pour construire le mikvé, mais il savait qu'il y avait une personne dans la ville qui était riche, un petit village, dans lequel cette personne-là avait les moyens de construire le mikvé. Et malheureusement, ce riche ne voulait pas payer pour construire le mikvé. Qu'est-ce qu'il lui a dit le... Je sais pas si c'est le Baal Shem Tov ou son élève, j'ai pas envie de dire de fausses informations. Ce tzadik-là, il est venu voir ce riche-là, et il lui a dit, si tu construis le mikvé, je te donne mon lama-ba.
Je la connais.
Attends.
Non, j'ai terminé le film.
Il lui dit, si tu construis ce mikvé, je te donne mon lama-ba. Maintenant, le riche, on n'a pas dit qu'il a pas de émouna, le riche, il entend un tzadik et je te donne mon Gan Eden. Il faut être fou pour
ça. Ça vaut le coup quand même.
Ça vaut le coup pour 10 000 euros, ça vaut le coup.
Je sens que tu ne mourras jamais.
Attends. C'est une autre histoire. Moi, je raconte cette histoire-là. Bon. On va analyser le comportement de ce tzaddik. Ce tzaddik, quand il dit qu'il donne son olam haba, il pense vraiment qu'il donne son olam haba. C'est pas qu'il se dit, non, je vais donner mon olam haba, et par le mérite de donner mon olam haba, quand je vais arriver en haut, ils vont dire, bon, t'as donné ton olam haba, on va te donner un meilleur. C'est pas un vislar, le tzaddik. Un tzaddik, c'est quelqu'un de émet. Quand il dit, je donne mon olam haba, ça veut dire que dans sa tête, il donne son olam haba. Et là, on a un exemple. On a un exemple réel de quelqu'un qui va aimer Akadosh Baruch Hu plus que son corps, ça c'est évident, et plus que son âme. Parce que il aurait pu dire, attends, je veux bien donner à Akadosh Baruch Hu le matériel, mais pas mon spirituel. J'ai travaillé, j'ai bossé.
C'est selon.
J'ai travaillé, j'ai bossé. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar ? Le Zohar dit que le niveau le plus fort qu'il y a chez un homme, c'est quand il va aimer Akadosh Baruch Hu. Il va aimer Akadosh Baruch Hu, il va être capable de donner pour Akadosh Baruch Hu son corps et son âme. Et c'est ce qu'on voit chez Abraham Avinu. C'était quoi le Nisayon de la Akeda ? Le Nisayon, l'épreuve qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, il a dit, maintenant, tu prends ton fils, tu le tues. Le fils d'Abraham Avinu, Yitzhak, c'était le futur. Abraham Avinu avait construit. Il a construit du spirituel. Un tzaddik, il construit du spirituel. Il a construit, il a préparé son fils Yitzhak. C'est la continuité, c'était lui qui allait construire le peuple. Qu'est-ce qui vient à Akadosh Baruch Hu ? Akadosh Baruch Hu lui dit, maintenant, ma volonté, c'est que tu sapes tout, tu arrêtes tout. Ça tue. Au moins, on aurait pu voir qu'au moins, Avraham Avinu essaie de négocier. Il dit, attends, Akadosh Baruch Hu, j'ai bossé, j'ai donné un mouvement, au moins, je suis pas d'accord.
Au contraire, il s'est levé d'accord de bonheur.
Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu ? Vayash comme Avraham Babokar. Il s'est levé de bonheur pour dire, Dieu, tu me demandes, tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant, c'était pour toi. Et si tu me demandes de tout enlever, je le ferai aussi pour toi. C'est ça, littéralement. Quand on est Akadosh Baruch Hu dit Avraham Avinu, tu vas tuer Yitzhak. Akadosh Baruch Hu, il savait que Yitzhak c'était son futur. Il savait très bien. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu ? À Kadosh Baruch Hu lui dit, tu arrêtes tout. Abraham Avinu dit, tu me dis, j'arrête tout, je me lève tôt pour le faire. Je me lève tôt, je montre un empressement. Ça, c'est ce que le Zohar dit. Quelqu'un qui aime à Kadosh Baruch Hu plus que son corps, ça encore, c'est assez simple, plus que son corps. J'ai pas dit que c'est simple, mais bon, c'est accessible. On comprend ça. Bon, par exemple, quelqu'un qui donne la tzedaka, il aime plus que son corps. Ben, la preuve, c'est qu'il aurait pu profiter, il donne cet argent. Et là, c'est plus fort. Plus que son âme. Yatir Migar Mevinafshe. Et là, Mourazaken, il dit que pour arriver à ce niveau-là, de Ihud Kutchabekru Shmite 2, d'essayer de ressentir au moins un petit peu, que quand je fais une mitzvah, je fais une mitzvah pour que, comme on a expliqué, pour que en haut, Dieu et la Shrina, c'est-à-dire la parole et la pensée d'Akadosh Baruch Hu vont se lier. Ils vont dire, mais j'en ai rien à faire, c'est en haut, ils ont qu'à se débrouiller, et qu'ils fassent leur shalom bayit entre eux, qu'est-ce qu'ils me veulent maintenant ? Mourazaken dit, pour arriver à ce niveau-là, il faut arriver à ce que le Zohar vient nous dire, qu'on oublie cette personne, et non seulement qu'on oublie son corps, on oublie même son âme. Comme exemple, je pense que le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple de ce tzaddik-là. Bien entendu, comme tu as dit, c'est l'exemple du Merkava, qu'on avait expliqué dans le Perek même, à la fin du Perek même, Merkava, que Abraham Avinu et les patriarches en général, ils étaient Merkava à Kadosh Baruch Hu. Sauf que la seule différence, c'est que eux, ils étaient Merkava toute leur vie à Kadosh Baruch Hu. Leur vie entière était Merkava à Kadosh Baruch Hu. Nous, on a la possibilité d'être Merkava au moment où on fait une mitzvah. Au moment où je fais une mitzvah, puisque à ce moment-là, je suis l'outil d'Akadosh Baruch Hu, parce que je veux fermer le circuit, comme on a expliqué, à ce moment-là, je peux être au même niveau qu'Avraham Avinu. Comment je suis le Beshem Raya Memena. Donc, Morazakan, il pose une question. La question qu'il pose ici, c'est, il dit, on vient d'expliquer que le Leshem Ihud, c'est très costaud comme concept. C'est un concept qui est très très fort. Que je fais une mitzvah avec la Kavana pour unir Dieu et Seshrina. Et on a enfoncé le clou encore plus fort, on a expliqué que non seulement que le concept est très fort, mais on a expliqué que pour arriver à ce niveau-là, il faut arriver à un niveau d'amour à Kadosh Baruch Hu, que j'aime Dieu plus que moi-même, plus que mon corps, plus que mon âme. Déjà, on a du mal à aimer. Tu me dis, aimer à Kadosh Baruch Hu plus que mon corps, plus que mon âme. Mais attends, où on va là ? Comment tu me demandes de dire le Shem Ihud avant la tefila ? T'es sûr que tu veux que je comprenne la traduction ?
C'est quoi le verger des trois pommes alors ? Le verger des trois pommes.
Le verger des ?
Trois pommes. Parce que quand tu fais
le verger des trois pommes.
Ouais,
je vois pas le rapport, mais bon.
Quand tu fais le kiddush justement le kiddush vendredi soir, que tu fais ce texte là, hein, hein, et après on te parle du verger des trois pommes.
Verger des trois pommes ?
Ouais.
Ouais.
Non, peut-être certainement on irait ici.
Non, on n'est pas.
Histoire de mikvé.
Bah,
oui.
Silencieux parce que...
Concrètement, oui, il a accepté. Non, moi, c'est pas ça. Moi, la question que je me pose, c'est ce tzaddik-là, quand il est arrivé en haut, est-ce qu'il a reçu le olam haba ou pas ?
Oui, elle.
Attends. Alors, il y a une histoire. Il y a une histoire que j'ai lue comme ça au nom de Rabbi Levi Trek de Berditchev. Qu'une fois, un élève de Rabbi Levi Trek de Berditchev, comme ça, la même chose. Il a donné son olamaba à quelqu'un pour une mitzvah, je sais plus c'était pourquoi. Pour acheter un prisonnier, d'accord, pour un étroit, je sais plus c'était pourquoi. Et l'histoire raconte que cet élève-là est resté bloqué en haut quand il est arrivé en haut. Il dit, mais je vais te donner ton olamaba. Tu l'as donné. Il lui a dit, attends que son maître monte en haut. Et quand son maître, il est monté en haut, alors son maître, il a dit, bon, j'ai fait une mitzvah, je te prends avec moi, allez, tu passes avec moi. Mais ça veut dire que il a réellement donné son olamaba. Quand il arrive en haut, il aurait pu dire, bon, je savais pas que c'était tellement...
Je mesurais pas,
j'invalide la... Mais ben non. C'est pour vous dire, quand un tzadik, c'est émettre. Quand il dit qu'il donne, il donne. Alors, bien que la question qui se pose, je finis avec ça, hein, on a expliqué que c'est un concept qui est tellement fort. Et on a expliqué que, on a enfoncé le clou, on a dit que pour arriver à ce concept-là, il faut arriver, je regarderai après le cours, il faut arriver à être capable d'aimer Akadosh Baruch Hu plus que son corps et son âme. C'est très dur, on a même du mal à comprendre comment c'est possible. Mikol makom, yesh le chol adam le argil atmo bekavanazo. Ça, Bezrat Hashem, on aura l'occasion de développer ça après Pessah. Il va expliquer que ça aussi, ça peut rentrer dans le cadre de l'Ahava Mesuteret. On a eu un point très très fort aujourd'hui. On a expliqué que, en plus de ce qu'on a expliqué jusqu'au Perek Mamalef, on marque une nouvelle phase dans le Tania, là. En plus qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, on parlait des combats entre le Yitzer Tov, Yitzer Hara, j'aime Dieu, je crains Dieu, mais c'était tout tourné autour de moi, je peux vivre dans un désert. Il n'y avait pas besoin qu'il y ait un Klal Israël autour de moi. Là, on a expliqué comment, en vérité, quand je fais une mitzvah, je ne suis pas le seul à en bénéficier, mais c'est le Klal Israël en entier. L'ensemble du Klal Israël, l'ensemble de la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui va s'unir avec la pensée d'Akadosh Baruch Hu. On a expliqué que pour arriver à ce niveau-là, hein, il faut réellement être capable de faire une mitzvah, pas pour gagner quelque chose personnellement, c'est-à-dire même si tu ne vas rien gagner. D'accord ? Comme le Rabbi disait souvent en Shluchim, quand il les envoyait très loin. D'accord ? Il leur disait, ne croyez pas que quand vous allez aller très loin, vous allez gagner des choses. Des fois, on se dit, bon, je vais faire une mitzvah, mais d'un autre côté, Dieu, il va faire que... Non, pas forcément. Il faut apprendre à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Donner non seulement son corps, parce que donner sa vie, c'est encore facile, à la limite. Parce que quand je donne ma vie, je donne mon corps, je donne pas mon âme. Qu'est-ce qu'il dit ici, le Zohar ? Yatir mi garme venafshe. Il est capable de donner pour Akadosh Baruch Hu son corps et son âme. C'est-à-dire même son spirituel, même son ruchniut, il est capable de donner à Akadosh Baruch Hu. Quand on voit ça, on a l'impression que c'est impossible, c'est pas faisable. Pourtant, on nous exige le Lechem Ichoud. C'est ça ce qu'on dit, le Lechem Ichoud. Alors comment c'est possible ? La semaine prochaine, excusez-moi, Bezrat Hashem, on ne fera pas la semaine prochaine, après Pessah, Bezrat Hashem, on expliquera comment tout ça, ça rentre dans le cadre de l'Ahava Mesuteret, et comment c'est accessible, même si c'est pas accessible à 100%, mais c'est accessible, et comment chaque personne, à un certain moment de la journée, il peut réussir à avoir ce sentiment-là, d'aimer Akadosh Baruch Hu parce que j'aime Dieu. Ni pour assouvir une soif, ni parce que j'ai envie de gagner en Olamaba. J'aime Dieu parce que Dieu m'a demandé de l'aimer. C'est très fort. Ça, Bezrat Hashem, on expliquera comment et pourquoi le cours après Pessah si Dieu.
Est-ce que quelqu'un qui s'exposerait, on va dire, par rapport à ses convictions, dans le but de servir Dieu, mais qui prend des risques sur lui-même, est-ce que ça pourrait s'appeler aussi jusqu'à son propre...
J'ai pas bien compris, des risques sur lui-même.
Concrètement, un exemple.
Concrètement, quelqu'un qui se dit pour aller faire du Zikour Yerabim,
voilà, ouais,
ben, je suis obligé d'aller dans une boîte de nuit pour essayer de ramener les gens, je ne sais quoi, et moi, peut-être je vais tomber, ou peut-être il y en a qui est tombé, mais il n'a jamais pensé tomber, il a sacrifié, pas j'avais quelque chose et je l'ai donné plus tard. Non, maintenant, j'ai pris des risques au point de tomber, je suis tombé, mais toujours dans ma kavana pour servir Dieu, est-ce que ça rentre aussi dans ce inyan de dire jusqu'à ma ruchniout, je suis prêt à la sacrifier pour Dieu?
Non, a priori, on n'a pas le droit de...
À part que ça soit choquant ce que je dis.
Non, j'ai très bien compris, mais le concept est le même.
Parce que si on dit à quelqu'un, toute ma vie je me suis consacré, et à un moment il dit, moi je te donne tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dû en là-bas, je te le donne. Encore une fois, je fais ce que je peux pour sauver l'autre, et j'ai pas de là-bas à donner, puisque j'en ai même pas pris moi-même. L'honora. Au lieu de dire ce que j'ai eu, je le donne, j'ai pas réussi à l'avoir parce que je me suis occupé des autres.
Vous posez-moi une question. Si c'est nous qui fixons les règles du mode d'emploi, là, dans ce cas-là, effectivement, on aurait pu arriver à ce genre de conclusion. C'est-à-dire qu'on aurait pu arriver à ce genre de conclusion que, par exemple, un tzadi qui peut envoyer quelqu'un dans une boîte de nuit tout en sachant que peut-être lui va tomber, mais il va se dire, j'ai plus de chances qu'il va ramener 20 personnes à la Torah. Donc, 20 contre 1, ça marche. Mm-hmm. Je prends des risques. Le problème, c'est que c'est Dieu qui a fixé les règles du mode d'emploi. Dieu a dit que c'est assourd.
C'est lui qu'on va laisser
prendre. Dieu m'a pas dit de gagner le Gan Eden. Dieu m'a pas dit c'est une mitzvah d'avoir ton Gan Eden. Il m'a dit, pour m'encourager, il m'a dit, tu vas faire une mitzvah, tu vas gagner le Gan Eden. Si moi je décide de donner mon Gan Eden, ça j'ai le droit. Au contraire, on dit ici que c'est le top niveau. Mais faire une avéra, j'ai pas le droit, parce que c'est Dieu qui fixe la règle du mode d'emploi. C'est ce qu'on a expliqué dans le Perek la Metzvah, la Metzain.
J'ai pris l'exemple d'aller en boîte, mais je veux dire, on va dire, même sans faire de avérote, mais bon, je sais pas, quand les gens ils vont partir comme ça dans des pays lointains ou dans des endroits où
ils vont moins étudier dans les faits.
Ils vont pas étudier, ils vont être dans un endroit où il n'y a pas de communauté réunie pour essayer de créer.
Oui.
Obligé que.
De ne pas s'éloigner de.
Il a moins. Bonne question.
Je sais pas, obligé, il va s'exposer, on va dire obligé, il va y avoir une influence de la Sviva. Sauf si tu me dis, bon, le rabbi de la vie Stavka, mais son rêve qu'il envoie, il le protège de loin et tout. Mais les masses, et le fait de sortir d'un environnement un petit peu qui le tient, bah,
il va
prendre du plomb dans les ailes.
La Gemara dans le traité Psachim, elle parle de. Elle amène. C'est une Gemara qui est très connue, que le rabbi a ramené très souvent. Il dit que. Quand une personne, et que la Gemara dit là-bas, elle dit que quand une personne est occupée à brûler du Hametz, il risque pas de le manger. Vous voyez de quoi je parle ?
Oui, bien sûr.
Bien. Il y a aussi une autre.
Ah, c'est le problème, c'est le principe de Hosek.
Voilà. C'est pas seulement
ça. Mita Hosek. Il y a aussi. Quelqu'un qui est médecin, même s'il va voir une bonne femme nue ou déshabillée 4 fois, 10 fois par jour, on va dire il n'a pas de marche à bosse, parce qu'il est Mita Hosek.
Attendez, j'ai aussi un autre exemple.
Mais le même, il est Mita Hosek, mais bon.
C'est aussi l'exemple de Kebol O Karfolto.
Oui.
Que, par exemple, on dit que si une marmite, elle a attrapé un. Si une marmite, on a cuit quelque chose de la sourde dedans, on dit que de la même manière qu'elle a attrapé le goût,
qu'elle a avalé, c'est comme ça qu'elle va ressortir.
Donc si elle a pris le goût par la cuisson, on en va enlever le goût par la cuisson. Très bien. Agmara pose la question et dit, oui, mais ça ne change pas que, peut-être que, au contraire, quand tu vas cuire, alors le goût, il va rentrer encore plus loin.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il répond Agmara ? Elle dit non. Elle dit, aïde de tarid le miflat lobala. Puisque la marmite est, entre guillemets, occupée à cracher, elle ne peut pas avaler. Ça veut dire quoi ? Le rabbi ramène très souvent pour dire que quand un juif il s'occupe à s'occuper d'une autre personne, alors, attention, je ne parle pas d'entrer dans une boîte de nuit, ça c'est absurde, il y a des limites qu'on ne touche pas, mais tant que ça reste dans les règles de la halakha, et que je m'occupe et je vais parler avec des gens, et que naturellement ces gens-là sont loin de la Torah.
Les gens mettent des tuilines sur les plages.
Sur les plages ?
J'ai vu ça, non ?
Je sais
pas, non, sur les bords, pas dans les plages.
Il n'y a pas de...
Sur les bords, ouais.
S'ils l'ont fait dans un endroit que c'est assourd, il n'y a pas de...
C'est pas praticable, non ?
Non, quand même. Je ne sais pas, peut-être alors qu'ils savaient. Là, je ne me souviens plus.
Je sais pas, moi, je sais que j'ai fait une année Miftaïma... J'ai fait une année Miftaïma Cannes,
ouais.
En été.
Et il venait de...
Et on allait de l'autre côté de la croisette. Il n'y avait pas de personne qui se baladait dans maillot de bain. Je peux témoigner, hein, j'étais là-bas.
Moi, je sais que...
Il y en a qui venaient t'embêter aussi.
Je sais qu'on fait attention à ça. Fais attention à ne pas rentrer, par exemple, jamais je rentrerai dans une boîte de nuit pour amener des gens, parce que c'est assourd.
C'est pas là d'accord. Où il venait.
Mais il y a le concept de Haïdé Tarit Lemiflat Lobala, que ouais. puisqu'il est occupé pour cracher, si je peux dire, donc ouais. Lobala,
il peut pas avaler.
Mais vous avez raison que j'aurais pu passer mon... Par exemple, ça aurait été un grand plaisir pour moi de rester 20 ans dans un collège, et si je le fais pas, c'est parce que je dois venir en chloukout.
Ouais.
Et donc, quelque part, ben, c'est pas quelque part, on donne quelque chose.
Obligé.
On donne.
Ça coûte.
Il y a un prix.
Ah, c'est obligé.
Il y a un prix. C'est évident. C'est ça ce que le rabbi nous a toujours appris. Hier, c'était le jour d'anniversaire.
Ouais, il paraît que c'était la teuf.
Du rabbi.
C'est une façon de parler, quoi.
Et on dit que le jour de naissance d'un tzadik, le olam va être à vie, même une fois que le tzadik est parti de ce monde. Le jour de naissance d'un tzadik, c'est un jour.
C'est un jour propice pour
le monde.
C'est une fenêtre.
Alors, c'était ça la chita du rabbi. La chita du rabbi, c'était ça. C'était que il faut se donner pour un autre juif, quitte même à perdre pour soi-même.
Enfin, il a au moins 80 ans d'avance sur les autres. Il a au moins. Les autres rabbanim de nos jours orthodoxes commencent à peine à dire à leur rabbanim de sortir.
Oui.
Alors, à peine, ça commence à sortir. Il a 80 au moins. On peut me dire, il y a 80 ans, c'était pas nécessaire, mais non, ça le devient.
Rabbi, il est toujours un pré... comment on appelle ça un...
Il est un précurseur.
Précurseur.
C'était un visionnaire. Non, aujourd'hui, on voit dans le monde orthodoxe, à Pavé, ainsi de suite, moi j'ai entendu des gens qui disent, non, on va. Moi, je me rappelle le tout début, quand je suis revenu sur Paris, j'essayais de voir, il n'y a pas des gens qui veulent venir à l'école pour parler aux élèves. Non, on ne sort pas du...
Et le Chabad ?
Non, on ne sort pas des Arba Amot du Bétamine. Ouais. Venez amener nos élèves.
Ouais.
Nos élèves. Mais nous, on n'y va pas.
Ramenez l'exemple d'Abraham. Ouais.
Maintenant, ils viennent. Maintenant, ça y est, ils ont eu le feu vert. Quelqu'un leur a donné. Je ne sais pas si c'est Rav Shteinman.
Rav Shteinman.
Ou le Rav... Rav Shteinman est venu. Il a dit, allez, ça suffit, il faut sortir.
Ouais.
Calme à faquette, ils sortent. Je veux dire, il y a un côté visionnaire.
Ouais.
franchement, il y a un côté visionnaire de pouvoir dire ça bien avant que tout le monde.
Le Rav Steinman qui a sur ça, sur ce point-là, il a coupé avec le Rav Char. C'est-à-dire, voilà.
Il a fait une cassure, comme on dit.
Une cassure, ouais. Ah, c'est clair. Hein,
Rav Char lui disait stay inside. Hein.
Ouais, 100%.
Ah, puis ils bougeaient pas, les mecs, ils bougeaient pas. Ils sont prêts à accueillir tout le monde, ils pouvaient parler avec tout le monde entre guillemets, mais il fallait revenir
mais
dans leur mikvé.
On peut pas nier que quand on sort, on prend. Premièrement, quand on sort, on prend. Rabbi ramenait souvent le phrase de Morazaken qui dit que quand on donne à quelqu'un, quand on fait Avat Yisrael avec quelqu'un, alors après Akadosh Baruch Hu, il fait que quand nous-mêmes on étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu nous aide elef famim kacha. Il ramenait des psukim, etc., qui dit qu'Akadosh Baruch Hu nous aide mille fois plus. Et le Rabbi, il avait l'habitude de dire mille fois plus, c'est pas une exagération. Je peux vous dire, je le vois clairement. Des choses qu'à la yeshiva, ça me prenait longtemps pour étudier. Maintenant, ça me prend vraiment beaucoup moins de temps. Je vois clairement, c'est-à-dire, c'est des choses que j'ai même pas besoin qu'on me l'explique, je le vois. Et chacun peut s'en dire.
Toi, tu perds pas ton temps en shlichut.
Oui. Hein? Mais bon, on donne quelque chose. Oui. On est obligé de donner. Bien sûr, ça aurait été un plaisir pour moi de faire 20 ans dans un collège. On a une mission, il faut amener ma chère.
T'as pas le choix.
On a toujours le choix.